Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Très heureux d'aller rejoindre Gilles Proulx, chroniqueur émérite au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Gilles.
Bonjour mon cher Marc-André. Je viens de voir que tu as reçu Mme Anglade. Il paraîtrait que TVA songe à remettre à l'écran l'émission Qui dit vrai?
Ah oui?
Oui. Son slogan, c'est vrai, n'est-ce pas?
Ouais, mais que pensez-vous, Gilles, de ce slogan-là? Moi, j'ai travaillé en politique, puis je suis pas, j'ai pas été là impressionné là par voter vrai. Je veux dire, on a-tu déjà voté faux, toi, Gilles? Avez-vous déjà voté faux? Quand tu dis qu'on parle des vrais enjeux, vraies solutions, ça veut dire que les autres personnes ne parlent pas des vrais enjeux?
Puis elle oublie de parler des anciens enjeux pour lesquels elle a reçu une claque en pleine figure au lendemain de sa défaite. Elle disait, notre Parti libéral, il va falloir qu'il perce maintenant. Je suis des tricotés serrés dans le Québec profond et on va devoir devenir un peu plus nationaliste. Et puis oui, ça c'est tout à fait normal pour nos bons amis néo qui suivent 3 cours de français au CEGEPT. Et tout ça, on n'en a pas parlé parce que justement, était pas tout à fait vrai. Alors, je pense que c'est un slogan qui est facile à galvauder. Il s'expose énormément à la caricature avec un slogan aussi limité.
Gilles, parlant justement de Mme Anglade, parlons des députés. Il y a tout un débat là aujourd'hui là par rapport là de la reconfiguration là du Salon Bleu. Là, est-ce qu'on met ça hémicycle là, ou fer à cheval, là, donc pour repositionner les sièges. Mais également, ça nous amène à la question, parce que là, dans les plans là qu'on voit aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, là il y a comme un plan de match à 134 sièges et un autre à 138 sièges. Gilles, est-ce que vous pensez que c'est le temps d'augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale?
Non. On est à l'heure de la rationalisation.
D'accord.
Et tout ça, c'est pour répondre à la masse immigrante qui entre à pleine porte. Et on sait fort bien que la masse immigrante est déjà endoctrinée par Ottawa, le ministère de l'Immigration, pour s'installer au Québec et ne rien changer. Donc, ça sera très, ça va être un cadeau grec que d'ouvrir autant de sièges, premièrement. Et je rappelle que le Parti libéral, à une époque, il a déjà été progressiste, ça fait longtemps, c'était Daniel Johnson fils qui était premier ministre, et il avait proposé de baisser de 125 à 100 députés, ce qui était tout à fait logique. Oui. Oh, mais quand même, la démocratie, il faut faire attention. Mais est-ce qu'on a besoin de 138 députés, ou encore, parce qu'on parle même dans d'autres points de vue, peut-être 134, le choix est pas fait. Et là, on va jouer avec les dessins, les configurations du Salon Bleu, et on ne donne pas le prix, évidemment, sachant fort bien qu'il va être plus cher que ce qui va être annoncé. Et on s'inspire du Parlement de l'Écosse, justement, en posant un dessin semblable à l'hémicycle où les sièges permettent de t'approcher de ton voisin pour mieux s'engueuler, sans doute. Mais je rappelle que, encore une fois, un député, ça coûte à peu près, ça c'était il y a un an et demi, là, 300 000 $ par année. Évidemment, on tient compte de son salaire, mais on ne tient pas compte et on oublie son bureau de comté. On oublie les nombreux voyages au sein d'un comité de ceci pour aller étudier cela et rien apprendre. Alors, je rappelle aussi que le Parti libéral, qui a déjà été progressiste, avait proposé de baisser ça à 100 députés, ce qui aurait été merveilleux.
Oui, puis là, présentement, là, tu parles de l'hémicycle et fer à cheval. Je pense qu'on est dans un débat un peu cosmétique, là, commencer à jaser là, quasiment de la couleur des murs du Salon Bleu, tandis que on devrait peut-être, sans doute, là, plus se questionner à savoir c'est quoi le rôle des élus, là, et peut-être valoriser leur rôle, et peut-être, là, je suis d'accord avec toi, Gilles, là, peut-être de réduire un peu le nombre. Si on se déplace du côté d'Ottawa, Gilles, encore une fois, Ottawa, là, qui souffre de surdité, là, tant qu'au quand on parle de bilinguisme, là.
Ben, on l'a en pleine face grâce à l'historien hein, Frédéric Bastien qui ne lâche pas. Une chance qu'il est là, ce gars-là, c'est un historien qui connaît bien les dédales des fonctionnements des deux constitutions, tant québécoise que celle d'Ottawa. Et Ottawa souffre telle de surdité, j'ai envie de dire oui. Ottawa fait la sourde oreille puisque on parle de faire valoir maintenant, on le sait, on en a déjà une preuve, une unilingue qui s'appelle cette bonne autochtone, Mary Simon, qui, on ne sait pas ce qu'elle a appris comme français jusqu'à maintenant, comme représentant du pays, faut pas l'oublier. Et ensuite de ça, là, la loi du bilinguisme dit bien, à l'article 16, que l'anglais et le français sont des langues qui ont un statut au même palier, des statuts égaux. Mais là, voilà, encore une fois, l'hypocrisie. Mmh. On va dire, on veut créer une distorsion, quoi. Et Bastien a raison là-dessus. Il rappelle qu'Ottawa envisage de nommer des ronds de cuir, les ronds de cuir étant les fonctionnaires, qui ne parlent qu'une seule langue, la langue autochtone, et une autre langue, bien sûr, sachant fort bien que ça va être l'anglais dans le cas des Autochtones à travers tout le Canada. Alors, encore une fois, la tristesse là-dedans, c'est de voir que le peuple s'en fout et ne respecte pas plus qu'il ne le faut. Et si Trudeau veut passer ça, ça va passer.
Mais est-ce que tu crois pas, Gilles, que... Tu sais, justement, là, avec M. Trudeau, là, c'est comme, et vous venez de l'évoquer, là, que M. Trudeau, les libéraux veulent mettre le français, l'anglais, les langues des Autochtones sur le même pied, là. Donc, on n'est plus rendu juste à deux langues officielles, là. On est rendu à deux langues officielles plus les langues autochtones, là.
Oui, il faut savoir combien de il y a de langues autochtones, parce que les Indiens, faut bien parler de leur solidarité, ils sont tous ensemble maintenant pour parler de la misère, parce qu'il y a de l'argent au bout de la ligne, mais eux-mêmes, ils ont eu des guerres, énormément de guerres intertribales entre les différentes nations et ne possédant pas les mêmes langues. Il faut suivre justement le rôle des jésuites, des missionnaires qui sont allés s'imprégner dans ces cultures-là pour s'apercevoir qu'il y avait une différence entre le langage parlé d'un Sioux ou d'un Iroquois ou d'un Algonquin.
Gilles, on est le 16 août 2022, 45 ans après la mort d'Elvis Presley. Et là... Là, j'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus, Gilles. Vous avez rencontré le père d'Elvis Presley parce que vous êtes allé à Memphis 6 mois après la mort du King.
Exactement, 6 mois plus tard, ma curiosité, et je suis en suspens à la radio. J'offre au magazine Lundi, à l'époque, qui prenait une envolée incroyable. Je dis, envoyez-moi à Memphis, je vais essayer d'aller interviewer les gens autour de Elvis et le père. Ah, tout de suite, des billets d'avion, puis on me donne un photographe très impressionnant. J'arrive à Memphis, Tennessee, une belle petite ville, et je rentre dans ce beau domaine qui est celui d'Elvis, où tous ses souvenirs étaient là, ses motocyclettes, les écuries, tout ce qu'il y avait, parce qu'il faisait que 6 mois, on n'avait pas liquidé encore. Et évidemment, on parlait du 16 août 77, comment Elvis était solitaire, malheureux et bourré de pilules. Et d'ailleurs, il va mourir d'un arrêt cardiaque dû à une surconsommation. Et puis, il était aux prises avec une envie de se réaffirmer. Et puis, il ne réussit pas parce que son colonel Parker, qui est son gérant, un gérant improvisé en quelque sorte, le colonel Parker, on l'a découvert, pour ceux qui sont allés voir le film, j'encourage ceux qui sont à l'écoute d'aller voir. Elvis, c'est un excellent film, très bien monté, et on s'aperçoit qu'il était un réfugié qui était rentré aux États-Unis, d'Allemagne, et évidemment, il y avait un avis d'extradition pour lui s'il entrait en Allemagne, parce qu'il est devenu un citoyen illégal. Alors, il va donc jouer avec son titre de colonel, et puis ça impressionne, puis là, il offre à Presley aider son père et sa mère surtout. Donc, il est tellement dépendant de sa mère. Je vais prendre 50 % de vos cachets quand on sait qu'un gérant, normalement, prend 15 % à peu près maximum. Mais il lui fait faire de l'argent, lui trouve énormément de contrats. Et on se demandait pourquoi, quand Elvis demandait toujours « J'aimerais aller chanter, faire une tournée mondiale », il voyait bien que la concurrence montait. Les Beatles et d'autres groupes britanniques faisaient des tournées mondiales. Et il disait « Non, t'es déjà connu, on a tellement de contrats pour toi aux États-Unis. » Par contre, le satellite s'en vient. En 68-69, je te ferai faire une sortie qui va te permettre de te faire voir autour du globe. Ce qui avait été passablement réussi, on en parle dans le film. Et moi, en voyageant avec ces gens-là, je te mens pas, les gardiens, les gars du corps, qui étaient là, je parle de ci et de ça, puis ses peines, puis ses angoisses, puis ses blondes, puis sa femme, puis sa fille. Et puis là, ils sont très généreux dans la jasette. Mm-hmm. Quand je dis, écoutez, est-ce que je pourrais pas aller un peu plus loin, faire une entrevue avec vous, je suis un journaliste. Oh! Ils m'ont sacré dehors quasiment à coups de pied dans le derrière. Ouais. Vous avez assez sali notre idole. Vous n'aurez pas d'entrevue, puis c'est pas ici que j'allais obtenir ça. Et je vous enjoins de quitter tout de suite Graceland. Oh là, j'ai le caquet bas, j'ai l'air fou. Et puis, j'ai toujours pas mon entrevue comme j'avais promis au magazine. Tout d'un coup, je dis à mon photographe, regarde cette rue-là, c'est plein de maisons très cossues. Un peu comme Westmont, si on veut, un quartier à part. Peut-être que le père habite là. Comme de fait, pure coïncidence, j'aperçois l'une des plus belles maisons. Que vois-je? Le père Presley qui sort avec sa petite valise attachée, qui se rentre dans son 4x4. Et là, je pars après lui. Je photographe, envoie, déclic. Bonjour, monsieur Presley. Je suis un citoyen de Montréal. Je parle pas d'être journaliste. Et, la première chose, je me demande, is it cold in Montreal? On est au mois de mai, c'est déjà très chaud. Il me demande quand même, voyez-vous, comment vont les Canadiens de Montréal? Ça m'avait un peu étonné de voir que le hockey préoccupait pas tellement les gens du Sud aux États-Unis. Non. Et là, j'ai dit, écoutez, monsieur Presley, je pourrais peut-être faire une petite entrevue, je suis journaliste. Et là, il a été très gentil, mais il m'a expliqué pourquoi il voulait pas, parce que globalement, nous l'avions trop malmené, trop galvaudé des histoires qui n'étaient pas exactes, et par conséquent, on n'a plus confiance en la presse, du moins à ce stade-ci, puisque les épidermes sont trop sensibles. Mm-hmm. Alors, dans ce sens-là, j'étais parti bredouille, mais j'avais réussi quand même à y obtenir quelques petits commentaires et avec des photos grâce au photographe qui avait été rapide sur le déclic. Fait que ça avait été un souvenir quand même inoubliable de voir ça et m'apercevoir comme le 16 août 77, comme le monde entier à cette époque, un peu comme Kennedy auparavant. Ouais. On savait où est-ce qu'on était quand on a eu cette nouvelle-là qui a été un choc de voir cette icône, ce géant de la chanson qui disparaissait.
Non, vous avez raison, parce que c'est un géant. Tu sais, moi, j'ai 39 ans, là. Fait que Elvis Presley, j'ai pas connu, là, de mon vivant. Mais, je veux dire, 45 ans plus tard, on en parle encore beaucoup. Puis, on en parle d'une façon quasiment quotidienne. Et même les jeunes au Québec qui ont même pas 40 ans, ben on sait qui est Elvis Presley. Gilles Proulx, un gros merci. On se retrouve demain.
Et pour dire qu'il est plus riche mort que vivant, faut pas l'oublier, hein.
Effectivement.
Ben, c'est bien aimable et à demain.
À demain, Gilles.